Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Sherbrooke, on est le 3 avril 2024. Il est midi 3 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture nerd et geek. Je suis Alexandre Bélanger pour vous animer cette semaine avec mes trois complices habituels, toujours dans le même ordre. Nathan, comment ça va?
Bonjour, ça va bien toi?
Ça va bien. Alex Racine, comment ça va?
Salut, ça va super.
Et Hugo Parent, comment ça va?
Ah, la session finie, moi je suis très content.
Oui, c'est une fin de session, effectivement. Il y a un printemps...
assez clément.
Avec des petits problèmes de schizophrénie, je vous dirais, parce que ben on annonce 25 cm de neige. Ce
ouais, oui, le printemps fait une rechute.
L'hiver fait une rechute. L'hiver, c'est... Oups, non, j'avais un quota, puis je ne l'ai pas fait. Au moins, il l'a fait en deux fois. Il l'a fait, voilà, 10 jours.
En trois fois, il l'a fait aussi au début janvier. Pas début janvier, mais fin décembre.
Fin décembre, c'est ça.
C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de neige cette année en nombre, mais en centimètres, c'est pas pire quand même.
Ben moi, je déneige mon entrée. J'ai sorti ma sueuse pour la deuxième fois au mois de décembre. Au mois de mars, et je vais la ressortir au mois d'avril. C'est comme, qu'est-ce que se passe-t-il?
Agréable.
Que se passe-t-il? Ah, puis mais non, tout va bien. Il n'y a aucun dérèglement climatique.
Non, c'est des fake news.
Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a sur la table? On va vous parler d'un nouveau jeu, Les Montagnes Hallucinées. C'est quoi le titre en anglais, Hugo?
Tu sais At the Mountain of Madness.
Oh, At the Mountain of Madness. On va avoir aussi la chronique du garage, mais ce ne sera pas notre garagiste habituel qui va la faire. Il va nous parler de rejouabilité. C'est Alex Racine qui va s'occuper de ça cette semaine.
Yes, on en a parlé, mais qu'est-ce que c'est que la rejouabilité? On va voir ça un peu plus tard aujourd'hui.
En effet, et Nathan va nous parler de...
De logiciels pour soit faciliter, soit permettre de jouer en ligne avec des gens qui ne sont pas à la même table que vous.
Donc, du support logiciel pour partie de roleplay à distance.
Exactement.
Et même, pourquoi pas, pour des gens qui sont à la même table, ça peut avoir tellement d'avantages.
Oui, il y a des avantages là, que tu peux les jouer même à ta table.
Et comme d'habitude, on va vous parler de petites nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine, mais ça vaut la peine. On sait que cette semaine, on annonce la sortie du jeu Wormspan. J'aime, moi, ce qui s'est passé dans ce contexte de jeu-là parce que ça n'a pas été on l'annonce 2 ans d'avance, on fait un Kickstarter. Ça. Non, ils ont annoncé le jeu, quand même un gros fracas. Les How to Play sont sortis la semaine passée. Le jeu est disponible en magasin. Bon, il est déjà sold out. Vous allez me dire, là, mais ça c'est.
Ouais, ben, Wingspan, même si c'est pas. Personnellement, le meilleur jeu du monde est un jeu qui est très populaire. C'est relativement agréable, ouais, je le trouve. C'est juste, c'est pas le jeu que je préfère.
C'est ça. Ben, c'est pas pour tout le monde, je vous dirais, mais c'est quand même une grosse compagnie. On peut pas comme passer à côté de cette sortie-là puis dire, oh, il existe pas. Puis ben, beaucoup de gens aiment Wormspan, puis beaucoup de gens sont sautés sur Wormspan, qui est un petit peu moins bon selon les commentaires que j'ai à date.
Ah oui, j'ai vu qu'il y avait adressé Wingspan. Plusieurs problèmes.
Ouais, mais des fois, les problèmes, le monde aime ça. Puis des fois, les changements, c'est difficile. Hein? Mais c'est ça. Ce que moi, j'entends, c'est meilleur que toutes les expansions, toutes ces affaires-là, mais moins bon que le jeu de base.
On verra.
On va l'avoir au club en fin de semaine.
Eh oui, parce que même s'il est sur d'autres, nous, on l'avait précommandé.
Et ben en fin de semaine, je dis qu'on a dimanche, on a un party, le CGSS. Au 1-0-0-0-0-1 toute la journée, si vous voulez les relaxer, fin de session.
Juste avant les examens.
C'est ça,
journée. Ou pas relaxer du tout en faisant un one-shot, pourquoi pas?
Ben oui, pourquoi pas un petit one-shot
Alien. Un petit one-shot d'Alien, hein, c'est ça, là.
c'est bon pour les nerfs.
White Knuckle, puis tout ça, là.
Venez donc voir l'horaire qu'on a sur Facebook si vous voulez vous inscrire pour le set.
En effet, facebook.com/groups avec un S/CJRSS. Les amis, on a joué à quoi cette semaine?
Pour ma part, j'ai joué au Charlatan de Bellcastle, que j'ai trouvé correct. C'est pas un de mes jeux préférés, mais j'ai apprécié. Là, C'est intéressant, c'est sûr que ma chance légendaire a ressorti encore, donc...
C'est un style de jeu push your luck un peu. C'est un construction de moteur et push your luck qui est pour moi un nouveau concept.
Ouais, ben c'est la première fois que je joue l'autre.
Mais tu sais, t'as toujours une partie moteur dans un push your luck, mais lui, il est vraiment moteur.
Ouais. Sinon, ben j'ai fait notre campagne habituelle de Donjons Dragons hier soir, qui s'est bien déroulée. Mm-hmm.
Bon, c'est fun à savoir que tu as eu ta campagne cette semaine, puis pas un one-shot pour remplacer le one-shot pour remplacer la campagne. Donc, pour moi, cette semaine, j'ai eu ma game qui a eu une version édition spéciale pour le lundi de Pâques. Donc, on a fait plus longue game. Sinon, j'ai joué à Ark Nova, pas une, pas deux, mais trois fois.
Okay.
Donc, je suis rendu 1-1 et un ex-aequo. Oui, oui, on a fini ex-aequo, puis le tiebreaker, on était ex-aequo aussi.
Avec Étienne, ça?
Ouais.
OK, ou non, c'est pas petit, ça, parce qu'Étienne, c'est une brute.
Ouais, donc 1-1 et un ex-aequo, donc on va voir qu'on fasse un tiebreaker éventuellement.
De mon bord, eh bien, j'avais depuis longtemps sur ma liste les monts hallucinés que je prête aujourd'hui. Donc, j'y ai joué à plusieurs reprises la semaine passée et j'ai aussi découvert Living Forest, un jeu qu'on avait dans la bibliothèque, mais que j'avais jamais eu la chance d'essayer.
Alors, moi, j'ai joué au Charlottenobel Castle. J'ai essentiellement animé une partie à 6 joueurs de nouvelles personnes qui venaient au club, qui ont joué à Cascadia. Mm-hmm. Qu'on a mis Cascadia avec l'extension, puis c'est long, 6.
En effet, 6 nouveaux joueurs.
6 nouveaux joueurs, ouais, c'est pas mal long.
Mais je tiens à préciser qu'ils ont apprécié l'expérience, puisqu'ils sont revenus le louer par après.
Ah, donc, c'est fun, ça.
Yeah. Mm-hmm.
Et j'ai un chemin de jeu dans ma partie de Star Trek avec le système celui de Conan, puis tout ça.
Ouais, Modifius,
c'est ça, avec le système Modifius. Puis ben, c'était la première attaque Borg contre la Fédération. Mes joueurs, je les avais mis loin parce que je voulais pas qu'ils aillent se suicider. Puis en bon officier de Starfleet, ils seraient allés se suicider devant le Borg. ils ont détruit le warp drive de leur vaisseau, par exemple, en essayant de revenir. Là,
oups. Mais...
bon. Puis j'ai eu ma partie de Frosthaven là, qui, comme d'habitude, a super bien été parce que je joue avec deux petites machines. Là, puis on est toujours vraiment sur le bord d'échouer, mais on échoue jamais.
Bon.
Ça signifie que ça fonctionne.
Oui, ça signifie que c'est extrêmement bien balancé. Des fois, c'est comme « Colin, on va-tu l'avoir? » Mais on l'a eu cette semaine.
Bon.
Fait que... ben, ça fait le tour pour nos petites interventions, nos petites vies cette semaine. Est-ce qu'Alex, tu veux commencer avec la chronique du garage?
Allons-y. Donc, cette semaine, je vais parler d'un terme qui n'est pas exactement une mécanique. C'est plus comme une méta-mécanique, si tu veux.
Un point de vente.
On en a parlé souvent, qu'on aime beaucoup d'un jeu ou qu'on trouve qu'il y a peut-être une faiblesse d'un jeu, la rejouabilité. La rejouabilité, c'est un aspect qui fait que quand on joue à un jeu, puis qu'on le ressort la semaine d'après, ou même littéralement le lendemain, on va avoir une expérience nouvelle et intéressante qui ne sera pas exactement la même chose qu'on a eu la dernière fois. En gros, ça va faire qu'un jeu est tentant de jouer plusieurs fois. J'ai eu cette idée-là en regardant des petites mécaniques qu'on voit plusieurs fois sur d'autres jeux, qui ne me semblaient pas mériter une chronique au complet, mais qui étaient quand même intéressantes. Par exemple, un setup différent. Un setup différent pour un jeu, on voit ça souvent selon le nombre de joueurs ou au hasard. On va sortir des pions puis créer une map différente. On va avoir un board différent. On va avoir un pouvoir personnel différent. C'est toutes des choses qui ne méritent pas vraiment leur propre chronique parce que ben tu commences avec ça, tu le lis puis tu fais ça.
Mais tu vois, tu adresses une belle évolution. Moi, un de mes jeux préférés, c'est Clank, la série au complet. Puis on voit l'évolution de Clank, le jeu de base, où t'as deux plateau, tu peux virer de côté. Là, tu t'en vas dans Clank and Space, où là, t'as un plateau, mais il est modulaire. Tu peux changer quelques petites tuiles pour changer un peu ton expérience. Puis après ça, t'as Clank Catacomb, qui est complètement modulaire.
Ah, mais qui est vraiment bon.
Puis qui est vraiment bon.
L'extension aventurier que tu peux rajouter sur n'importe quel Clank, je crois. Qui ça rajoute des pouvoirs de base aux personnes puis des cartes différentes. Donc souvent, la rejouabilité va rimer avec la symétrie. Mm-hmm. Souvent, c'est des concepts qui vont bien main dans la main. Puisque avoir des jeux différents va permettre une rejouabilité, puisque tu n'as pas joué avec toutes les versions possibles encore. Une autre chose qui va beaucoup aider avec la rejouabilité, c'est le volume de cartes. Tout simplement, s'il y a des cartes dans le jeu, en avoir plus va permettre plus de jeux différents. Que des jeux comme Terraforming Mars ou Ark Nova, que la pile de cartes fait un 15-20 cm avec des cartes, c'est clair qu'il y a beaucoup d'options.
Tu vas jamais repiocher les deux fois d'affilée les mêmes cartes.
C'est sûr. Puis ensuite, une autre grosse mécanique qui va permettre la rejouabilité, c'est plusieurs manières de gagner. Tout simplement.
Oui, effectivement.
Parce que des jeux comme Dune Imperium, il y a plusieurs champs où on peut aller. Et ces champs-là peuvent vous permettre une victoire complètement différente. Si on parle d'un jeu vidéo, par exemple, Civilization est un excellent exemple de ça. Mm-hmm. Où Civilization, tu peux conquérir tout le monde, tu peux politiser tout le monde, tu peux christianiser ou peu importe la région que tu as choisi, tout le monde.
Tu peux faire l'ONU.
Tu peux aller découvrir l'espace.
Ouais, tu peux faire un vaisseau pour aller dans une autre planète. C'est tout
il y a plein de manières de gagner. Puis ça augmente la rejouabilité d'un jeu drastiquement. Parce que non seulement ce que tu as choisi au départ, puis les cartes que tu piges vont changer ta manière de gagner, mais en plus, peu importe ce que tu as pigé, tu peux aller vers un autre objectif puis recommencer différemment. Pour moi, la rejouabilité, c'est vraiment un facteur clé pour un jeu. Puis comme tu disais tout à l'heure, un gros facteur de vente.
En effet. Écoute, je trouve ça fascinant. Puis, je te dirais, on va aller à la pause, on va continuer, puis on va continuer avec des exemples aussi, je pense, hein, ça vaut
oui,
la peine.
Oui, tout à fait.
Donc, de retour dans quelques minutes. On est de retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion, jeux de société, jeux de rôle et culture geek. Avant de partir à la pause, Alexandre Racine a commencé à nous parler de rejouabilité.
Oui, donc comme je mentionnais, plusieurs attraits qui peuvent augmenter la rejouabilité d'un jeu. Mais ensuite, on voudrait peut-être des exemples puis des contextes de pourquoi la rejouabilité pourrait être quelque chose qu'on recherche ou pas, en fait. Il y a des jeux qui se vendent, qui sont très populaires et qui ont une rejouabilité exactement nulle.
Ou presque nulle.
Ces jeux-là, par exemple, on parle de Unlock. Mm-hmm. On parle de...
Time Story,
voilà. Ouais. Des jeux avec un scénario précis et des indices clairs qui mènent à une fin inévitable.
Donc, une fois que tu connais le twist final ou l'objectif que tu vises, t'as plus de surprises à avoir.
Voilà. Donc, tu pourrais techniquement refaire le jeu pour essayer de faire un meilleur temps, mais ce serait pas mal.
Donc, il n'y a pas d'éléments de hasard qui vont venir influencer ton expérience pendant...
Exact.
C'est une expérience qui est comme prédéterminée. On appelle ça sur des rails, là, essentiellement.
Oui, c'est un scénario qui a un début, un milieu puis une fin prévue. Ça ne veut pas dire que ces jeux-là sont mauvais. Il y a une raison pourquoi les jeux de Unlock sont parmi les jeux les plus populaires, les plus vendus, puis surtout les plus populaires sur les sites de revente de jeux. C'est parce qu'ils sont excellents, mais qu'une fois que tu les as joués une fois, c'est ça.
On a quoi, 8 boîtes au club? 9 boîtes?
On est rendu à 9 avec le dernier achat.
On en a beaucoup.
Achat,
donc, si c'est des jeux qui vous intéressent, venez donc nous voir. Ben, jouer à ça le mercredi, en emprunter un, faire les 3 scénarios... Ça rentabilise la chose.
Oui, puis ça c'est va vraiment faire fun. Que votre petite carte de membre de 10$ vous coûtera pas cher par rapport à...
En effet. Sinon, on a des jeux avec encore un scénario fixe, mais une certaine rejouabilité. Par là, je vais parler des jeux un peu comme Zombicide, où tu lis un scénario de départ, tu as un objectif, puis comment tu vas y arriver exactement va dépendre un peu des personnages que tu as choisis, un peu des ressources que tu vas trouver, mais
des
l'histoire
que tu
va
vas piger. Suivre.
Des bons exemples. Frosthaven, Gloomhaven. Mm-hmm. C'est juste qu'il y a un tapon de scénario, puis éventuellement, il y a des embranchements qui rajoutent de la rejouabilité. Mais effectivement, si tu veux refaire le scénario 1 de Gloomhaven, ben,
refais-le.
C'est ça. Change tes classes, mais.
De la même manière, Arkham Horror de Card Game, que j'ai parlé à quelques reprises, effectué aussi en scénario, et que bien qu'il y a un peu d'hasard et de rejouabilité au sens que tu sais pas si tu réussis tes actions ou pas toutes les fois. Au final, si tu sais vers où tu t'en vas puis quel chemin prendre pour réussir, tu connais le chemin à prendre.
Les Pandemic Legacy sont comme ça.
Effectivement,
aussi.
Pas mal tous les jeux Legacy, c'est là le point que j'allais y arriver, pas mal tous les jeux Legacy vont aussi avoir ce principe-là qu'il y a un scénario, il y a souvent une condition de victoire, condition de défaite, puis le scénario peut changer un petit peu, mais si tu as joué le Legacy une fois, chances are que si tu commences le Legacy à nouveau, tu vas déjà savoir pas mal ce qui se passe.
Effectivement, tu vas peut-être avoir un peu moins de plaisir.
Mais encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que ces jeux-là sont mauvais parce qu'ils n'ont pas de rejouabilité.
Puis il y a quand même une chose qu'il faut dire, là, c'est bon, un board game moyen qui est acheté, à moins que ce soit ton board game préféré, tu vas jouer une, deux fois par année. Un Legacy, quand tu commences puis t'aimes ça. Puis,
oui, tu vas faire les 8, 10, 15 games, mais après ça, c'est fini. Mais c'est ça, ces jeux-là ont quand même un attrait intéressant parce que le scénario a beau être un facteur limitant pour la rejouabilité, c'est quand même quelque chose qui permet d'enrichir un peu artificiellement le jeu avec des événements, des mécaniques nouvelles qui vont vraiment enrichir l'expérience puis rendre ça super intéressant, mais qui vont empiéter sur la rejouabilité.
Puis comment tu vois, mettons, un Brass Birmingham ou un Agricola ou...
Ben pour moi, ça c'est justement la prochaine catégorie. Une rejouabilité bonne, mais pas complètement folle. Il y a des stratégies qui vont toujours fonctionner. Il y a des cartes qui vont toujours revenir. Tu peux t'attendre à certains facteurs. Tu vas savoir à quoi t'attendre. Tu vas... Mais la game va être différente en fonction de qui joue, combien il y a de joueurs, puis qu'est-ce que les autres vont pousser pour faire.
Puis l'expérience, dans le fond, va changer en fonction de ton expérience du jeu.
Tout à fait. C'est des jeux qui sont excellents pour des compétitions de jeux de société, justement. Parce qu'il y a un certain niveau de rejouabilité qui va faire que le jeu ne sera pas plate pour des joueurs expérimentés, mais il y a quand même assez de stabilité pour développer des stratégies fiables, puis pouvoir faire des compétitions intéressantes.
Donc, par exemple, les échecs rentreraient dans cette catégorie-là?
Selon moi, oui. La prémisse de base est toujours la même. Mais qu'est-ce qui va se passer est tellement différent à chaque game sans inventer quelque chose de nouveau.
Il y a quelques trilliards de parties possibles aux échecs, là, fait qu'on est correct.
Ouais, c'est ça. Ensuite, on arriverait à l'autre catégorie, qui sont les jeux que, à chaque fois que tu joues, t'es pas exactement sûr que c'est la même game que la dernière fois. Là, on va rentrer avec des jeux comme Dune, justement, où ce qui va se passer va être totalement différent en fonction
puis là,
de...
Puis là, on parle des deux Dune. Autant Dune Imperium que Dune, le jeu fou là, qui prend 6 heures à jouer.
La plupart des jeux de conquête de territoire, des jeux comme Twilight Imperium aussi, vont rentrer là-dedans, où, dépendamment de ce que tes voisins font, le jeu peut changer de saveur complètement. Tu peux être dans une grosse campagne militaire ou tu peux être en plein de faire des traités puis de la science, puis tu sais pas à quoi t'attendre. Le jeu va être tellement différent. Des jeux qui ont énormément de cartes ou des combinaisons de mécaniques de départ différentes vont aussi rentrer là-dedans.
Ark Nova, Terraforming Mars.
Tout à fait.
Ils sont pas respectivement 4e et 5e pour 7e. Rien. 7?
Ah oui, ils ont bien... 4 et 7.
4 et 7. Oh, c'est Terraforming Mars qui baisse, là?
Il y a des nouvelles hype qui prennent les places, Ça arrive dans le monde, dans toutes les sphères de la vie, en fait.
Tout à fait.
Il y a des exceptions aussi dans ce style de jeu-là qui sont pas rejouables du tout. Moi, j'ai Beyond the Sun, qui est un super beau jeu de stratégie avec très peu de chance. Mais le fait qu'il y ait très peu de chance fait que quand tu as le chemin optimal, tu vas péter la gueule à tout le monde parce que t'as le chemin optimal. Ou tu vas te chicaner avec l'autre pour lequel des deux prend le chemin, puis après ça,
Effectivement, il y a des jeux, justement, que un facteur chance puis le facteur asymétrie sont vraiment les deux premiers moteurs de...
Je pense que je rajouterais aussi l'interaction avec les joueurs. Plus que tu as à interagir avec d'autres joueurs, plus que ça va varier au cours d'une partie.
Pour moi, en tant que contrôle de ma personne, j'appelle ça quand même une partie du facteur chance. Mais t'as raison que en tant que table, c'est l'interaction entre les joueurs.
Le style de joueur aussi va changer beaucoup.
Tout à fait. Tout à fait, il y a des gens qui vont toujours être plus agressifs, il y a des gens qui vont être plus calculateurs de leurs ressources, il y a des gens... Donc, ça va effectivement changer. Ce qui nous amènerait finalement à la dernière catégorie, la rejouabilité ultime, que chaque fois que tu ouvres la boîte, tu ne sais pas du tout où est-ce que tu t'en vas, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai pas trouvé d'exemple clair pour ça, fait que je vous demanderai votre aide. Est-ce que vous avez des jeux dont la rejouabilité est tellement grande que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec ce jeu-là à chaque fois?
Moi, j'ai Gaia Project, Terra Mystica et... Voyons, c'est quoi le dernier? Age of Innovation. C'est essentiellement la même mécanique en arrière. T'as un jeu de base, qui est un peu moteur, mais tes objectifs sont tellement différents, parce que c'est des objectifs qu'on met au hasard. Des objectifs tellement différents que tes stratégies doivent changer. Puis c'est un jeu ultra complexe en plus. Fait qu'il faut vraiment que tu décides de ta stratégie, comment tu vas t'y prendre, de round en round, qu'est-ce que tu vas faire. Puis dans le round précédent, tu prépares le prochain round. C'est quelque chose, là. Nathan a souvent mal à la tête quand on joue à ça.
Non, c'est pas lui qui m'avait donné mal à la tête. C'est l'Ark Nova qu'on a joué 40 minutes après la game de Terra Mystica.
Mais je pense que t'étais brûlé de Terra Mystica. Ouais. C'est quand même tough, là.
Personnellement, je pense que j'irais faire Karmaka, qui est un jeu...
Tout simple, tout
petit. Qui est vraiment simple, vraiment petit. Mais comme qu'on a mentionné qu'il y a quand même une grande quantité de cartes, et le principe, c'est que t'en as pas beaucoup à la fois, mais qu'avec ta petite main, tu dois réussir à faire suffisamment de points pour avancer au prochain palier à toutes les fois, tout en jouant avec les autres, au sens qu'à toutes les fois que tu joues une carte, un adversaire a la possibilité de prendre la carte que tu viens de jouer pour la rejouer contre toi plus tard. Donc, c'est à toi de choisir, est-ce que tu veux jouer tes cartes pour faire des points, est-ce que tu veux la jouer contre l'autre joueur pour l'empêcher de faire des points, puis ça fait en sorte que il y a éventuellement tellement de possibilités qu'aucune partie est pareille.
Il y a les jeux de duel aussi. War of the Ring, Star Wars Rebellion, Twilight Struggle, puis le nouveau Dune, War for Arrakis, où, en fonction des deux joueurs, en fonction de la stratégie,
qu'est-ce qui va se passer?
Le setup est complètement différent d'un à l'autre. Dans War of Arrakis, entre autres, c'est assez criant. Là. Oui, OK, le méchant contrôle le milieu, les Harkonnen contrôlent le milieu, là, mais comment les villes des Fremen vont être arrangées, c'est complètement différent d'un à l'autre. Puis, il y a beaucoup de mécaniques qu'on peut rajouter pour ajouter de la saveur. T'sais. On peut jouer au jeu de base, mais on peut ajouter telle difficulté. Fait qu'il y a quand même, peut-être pas ultime, mais puis aussi, faut dire le temps qu'on passe, là, parce que on considère pas la rejouabilité d'un board game de 2 heures de la même façon qu'on va considérer la rejouabilité d'un Twilight Imperium, mettons.
C'est sûr. Là, si tu passes 12 heures sur un jeu, de facto, tu le sors pas souvent. Fait que même si la rejouabilité est pas infinie, ben, vu que tu le sors pas souvent, ça va te prendre beaucoup de parties avant de retomber sur une partie que tu as déjà vue.
Ce qui m'amènera à ma question finale pour clore ce segment-là. Pour vous, la rejouabilité, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une mécanique qui vous appelle beaucoup? Ou c'est quelque chose qui est le fun à avoir, mais qui n'est pas nécessaire?
Je peux commencer. Personnellement, ça va dépendre du budget. Parce que j'apprécie énormément les jeux qui ont, dans les faits, souvent peu de rejouabilité. Mais comme on a mentionné, c'est des jeux qui ont peu de rejouabilité.
Hugo, là, il se retient à peine de jouer à Sleeping Gods. Il aime le narratif au bout.
Exactement. Donc, quand il y a des jeux extrêmement narratifs, que la saveur est vraiment présente, mais qui ont peu de rejouabilité, moi, ça... je m'interpelle beaucoup de jouer au jeu, mais naturellement que ben, je peux pas juste faire ça de ma vie parce que sinon, je viendrais à court d'argent assez vite. Donc, je me permets quand même de jouer à des jeux avec plus de rejouabilité.
Tu me rappelleras d'emmener éventuellement My Father's Dream, My Father's Work. Je suis sûr que tu aimerais beaucoup.
Probablement.
Tu l'as encore?
Ah, c'est ma coloc qui l'a, mais oui.
Moi, je vais aller dans le même sens que Hugo. C'est le sweet spot investissement en argent versus... Moi, je regarde beaucoup ce retour-là. Là, comme je me dis, oui, j'ai acheté Frosthaven, oui, j'ai payé cher pour... Mais j'ai mis tellement de temps dedans, j'ai tellement de plaisir que je m'en fous. Là, il m'a pas coûté cher. Versus un jeu que je vais jouer 2-3 fois, que j'ai payé 100$, puis que j'aime plus ou moins. Versus encore un jeu que, si je le paye, je vais pouvoir jouer une fois. Je me suis permis les Pandemic Legacy, parce qu'il était en spécial, puis tout le monde me disait, il vaut la peine.
Mais tu le regrettes pas.
Pas du tout. Non, effectivement, si vous avez seulement un jeu Legacy à jouer, je pense que Pandemic Legacy saison 1...
Il n'est pas numéro 2 sur BGG pour aucune raison.
Exactement.
Pour ma part, ben, je vais aller dans le même principe. Moi, c'est surtout au niveau du jeu vidéo que je fais ça. C'est je vais regarder prix versus temps que je mets sur le jeu. Puis après ça, je vais le compter à combien m'a coûté de l'heure. À date, Baldur's Gate 3 m'a coûté 50 cents de l'heure, donc ça ne me dérange point de l'avoir racheté.
C'est vrai que c'est rentable. Je m'en vais là-dessus sur Helldiver, moi, personnellement. Il ne m'aura pas coûté cher.
Donc, on a pas mal tous la même opinion que, malgré que la rejouabilité, c'est vraiment le fun, puis ça rajoute énormément de valeur à un jeu, les scénarios puis le built-in qui enlève la rejouabilité peut vraiment ajouter beaucoup à un jeu. Donc, les deux ont leurs avantages.
En effet.
Donc, merci beaucoup pour la chronique. Puis
ben oui, merci Alex. On va, je pense qu'on est assez proche de l'heure pour aller faire la pause. Puis au retour, Hugo va nous présenter les montagnes hallucinées. Ça sera pas long, on revient. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion jeux de rôle, jeux de société et culture geek. En la pause, Alexandre Racine nous a présenté elle nous a présenté la rejouabilité, le concept de rejouabilité plus qu'une mécanique. Là. Et là, on va parler à Hugo de Mountain of Madness.
la petite toune manquait de cris de panique et de détresse, n'est-ce pas, Hugo?
Ben, un peu, parce qu'on se cachera pas, c'est un jeu tiré de l'univers de H.P. Lovecraft. Donc, Les Monts Hallucinés, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un groupe d'explorateurs partis en Arctique à la recherche d'une récente apparition, une récente découverte qu'ils ont faite et qui s'en vont explorer une suite de montagnes dans le but de découvrir d'anciennes reliques et explorer un peu ce qui se tramait là-bas.
J'avoue que je connaissais pas du tout que le contexte, parce que ouais, j'aurais peut-être pris ma toune de mauvaises nouvelles ou quelque chose de même.
Oui. Le principe, vous en comprendrez bien selon le titre, c'est que plus que vous vous enfoncez dans la montagne, plus que l'expédition commence à devenir fou et à se sauter à la gorge les uns des autres. Dans les faits, Les Monts Hallucinés, c'est un jeu coopératif de 3 à 5 personnes. Mais si j'avais à le classifier en 2-3 mots, là, c'est un jeu de party. Donc, comme tous les jeux de party, plus vous êtes, plus c'est plaisant. Donc, bien que ce soit de 3 à 5, c'est recommandé sur BGG, je suis d'accord, pour 4 à 5, voire 5 personnes pour jouer à ce jeu-là. Il a été classé avec une cote de 6.5, ce qui est à mon avis inférieur à son vraie valeur, parce que c'est effectivement pas un jeu très complexe. Là. Il y a 2.06 sur 5, c'est vraiment pas un jeu complexe, puis je pense que ça affecte un peu son rating sur BGG. Mais c'est à mon avis un jeu très plaisant qui, comme on vient de le mentionner, a quand même beaucoup de rejouabilité. C'est vraiment du fun, simple, sans se prendre la tête.
C'est bizarre parce que je regarde les composantes, je regarde la boîte. C'est pas un jeu qui me dit « Ouais, ça, c'est un jeu où tu vas rusher ta vie. » Puis c'est des beaux composantes, c'est des couleurs si pastelles. Oui, c'est comme, voyons,
ça fait pas très H.P. Lovecraft, je te dirais. Non, il manque vraiment de vert et de gloom.
Ben, voyez-vous, l'aspect gloom et un peu panique va arriver assez vite parce que dans la boîte se trouve un beau petit sablier de 30 secondes. Et le principe est le suivant. Vous allez être en avion et vous allez vous déplacer sur la map. Il va donc y avoir 4 phases. La toute première est la phase de mouvement. Donc, le leader, qui va changer à tous les tours, va choisir de prendre l'avion et de se déplacer vers un lieu adjacent. Tu peux aller vers la gauche ou la droite ou monter plus haut dans la montagne. Vous comprendrez que plus que vous montez haut dans la montagne, plus les défis que vous aurez à relever seront importants et plus ce sera difficile de les relever. Donc, vous êtes incité à passer un certain temps au bas de la montagne, déplacer, observer les lieux, à obtenir de l'information, obtenir des ressources qui vont vous aider une fois que vous serez plus loin dans la montagne. Une fois la phase de mouvement passée, la personne va déplacer son avion et va atterrir sur une nouvelle tuile. Les tuiles, il y en a divers types. Vous commencez sur la côte, puis vous vous hissez dans la montagne avant de vous rendre dans la cité et finalement, vous vous rendez jusqu'aux portes de la folie avant de devoir tenter de prendre la fuite avec suffisamment de reliques pour rendre l'expédition valable.
Donc, c'est clank.
Ouais, c'est basically clank.
C'est clank avec des gens fous.
OK.
Et coopératif.
C'est coopératif.
Mais la folie, qu'est-ce que c'est que la folie?
La folie, qu'est-ce que c'est que la folie? C'est une excellente question. Il va y avoir, au cours de la partie, 3 piles de cartes folie que vous pourrez obtenir de diverses manières. La première que vous pouvez obtenir est à toutes les fois que vous trouvez une relique dans la montagne, vous obtenez une folie. Les folies, il y a 3 niveaux. Niveau 1, 2 et 3. Et plus que les niveaux étaient élevés, plus que l'effet est néfaste pour réussir les défis auxquels vous êtes, auxquels vous faites face. Des folies de niveau 1 pourraient par exemple être de simplement parler avec un accent ou de ne parler que si vous caressez le visage de quelqu'un. Ce sont des... Je vous cacherai pas. C'est un jeu de party, là. On se cachera pas. Il y aura des choses vraiment drôles, vraiment wack qui vont se produire. Faut prendre ça avec un grain de sel puis quand même en rire. Des folies numéro 2 pourraient par exemple être que quand quelqu'un dit un certain mot, vous devez crier et vous ne pouvez plus parler pour le restant de la phase. Vous ne pouvez pas jouer de cartes avant que tout le monde ait joué des cartes avant vous. Par exemple, que si vous voulez dire un nombre, ben vous devez mimer votre nombre avec vos doigts au lieu de le dire à voix haute.
C'est pour ça que je t'ai vu courir autour de la table l'autre jour.
Et par exemple, des folies de niveau 3 pourraient être que ben, vous ne pouvez pas rester assis à la table. Vous devez commencer à courir dans tous les sens durant la phase et vous devez tenter de déposer les cartes tout en continuant de courir. ou encore tenter de mimer tout ce que la personne à côté de vous fait. Comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça, ce sont des folies qui vont empirer la situation? C'est que une fois que vous avez atterri sur un lieu, vous tombez dans la phase de rencontre. Lors de la phase de rencontre, vous allez, lorsque tout le monde sera prêt, revirer la tuile sur laquelle vous êtes atterri et vous allez devoir remplir les défis qui vont y être. Les défis, comment ça va? Ça va consister en 2, 3, voire 4 quantités que vous allez avoir à remplir. Vous allez donc avoir dans votre main 4 types de cartes. Des cartes caisses, armes, outils et livres, avec des valeurs allant de 2 à 6. Et lorsque vous allez virer une carte, par exemple, si vous êtes sur la côte Jean-Piochine, ça me dit que pour réussir ce défi-là sur la côte, il faut avoir de 7 à 9 caisses et de 8 à 10 outils. On va donc devoir collectivement jouer des cartes pour qu'à la fin, quand on regarde quelles cartes ont été jouées, ben, il y a de 7 à 9 caisses et de 8 à 10 outils.
Naturellement, tu ne peux pas dire les nombres sur tes cartes et tu ne peux pas communiquer trop d'informations d'autres joueurs.
Tu ne peux pas communiquer d'informations par rapport à ce que tu as dans ta main tant que la tuile n'est pas revirée. Au moment où la tuile est revirée, on revire aussi le sablier et on a 30 secondes pour jouer les cartes de manière à ce qu'on remplisse le défi. Tout en respectant, bien évidemment, nos folies. Donc, au tout début, sans ou avec presque pas de folie, c'est assez facile de dire « Bon, ben moi j'ai un 5 outils, si toi t'en as 4, on est correct, on est 9, 9 c'est entre 8 et 10 ». On a ceux-là, ensuite ça, pour les caisses, ben moi j'ai 3, toi t'as 4, ah ça fait 7, ok c'est bon, on a 7, on joue nos cartes et on réussit le défi.
Rassure-moi, les folies que t'as mentionnées ne stackent pas les unes sur les autres.
Dans le jeu de base, non, les folies ne stackent pas. Avec un astérisque, le principe est lorsque tu as une folie 1 et que tu devrais reprendre une folie, tu discartes ta folie 1 et tu prends une folie 2. Si tu as déjà une folie 2, tu prends une carte à folie 2, tu prends une folie 3. Mais si tu as déjà une folie 3, tu commences à stacker les folies 3. Ah, donc, tu en as de plus en plus. L'autre principe qui est derrière ça, c'est que à partir du moment qu'une personne joue une carte, plus personne n'a le droit de parler. Et plus personne n'a le droit de communiquer. Donc, vous devez quand même vous tamer pour dire « Ok, est-ce que tout le monde a compris quelle carte on joue? Go et on joue nos cartes. » ce qui, vous comprenez, lorsqu'il y a de plus en plus de folies, et par exemple des folies qui vous empêchent de dire les noms des cartes ou empêchent de dire quel type de carte vous avez dans votre main, commence à être compliqué en 30 secondes. Pour vous aider, vous allez avoir des jetons leadership qui vont vous permettre d'étendre votre durée et de vous donner un peu plus de chance. Les jetons leadership... vous commencez la partie avec 6 jetons. Et au fil de la partie, vous allez progressivement avoir à les perdre. Comment ça fonctionne? C'est qu'à toutes les phases, vous pouvez dépenser un jeton leadership pour obtenir un certain bonus. Lors de la phase de mouvement, vous pouvez en dépenser un pour enlever une folie à un joueur. Ou s'il a une folie de plus haut niveau, réduire le niveau de la folie d'un joueur. Lors de la phase de rencontre, alors que vous êtes pressé, vous tentez de déterminer la bonne quantité de cartes à jouer, vous pouvez vous donner un délai de grâce. Une fois que le sablier est écoulé, vous pouvez payer un jeton leadership pour retourner le sablier, vous redonner un autre 30 secondes. Finalement, lors de la phase de résolution, eh bien, on va regarder si le défi a été atteint. Si, dans les cartes piochées, on est dans les barèmes. Les barèmes qui, pour une carte côte, sont... par exemple, assez laxe entre 7 et 9, entre 8 et 10, mais qui est rendu plus haut pourrait dire « ça me prend 16 caisses », très spécifiquement. Auquel cas, ça devient plus complexe. Si vous réussissez à atteindre tous les défis sur la carte, vous obtenez les récompenses associées. Les récompenses associées vont être soit se soigner, donc enlever des blessures du deck, soit obtenir de l'équipement ésotérique, c'est-à-dire des cartes de valeur 10, Ce qui est assez pertinent pour dans le haut de la montagne, certaines vont vous dire que ça prend 20, jusqu'à 20 pour réussir, entre 20 et 25 pour réussir un défi. Donc, ça va vous prendre quelques 10. Ou encore fouiller, ce qui vous permet d'aller regarder une carte, une tuile plus loin dans la montagne pour, vous pour pouvoir vous y préparer.
Ça... Je t'écoute, là, puis c'est deux de complexité, mais il me semble que non.
Dans, je vais vous dire, le dire comme ça, c'est peut-être pas le plus clair. Dès qu'on a joué, une fois qu'on a joué une tuile, c'est assez straightforward. Okay. On a des cartes dans notre main. Il faut jouer les symboles qui sont sur la carte, la tuile qu'on vire. Puis okay. On a 30 secondes pour les jouer. On a des bonus aux alentours pour nous aider à faire ça. Et il y aurait évidemment des malus si jamais on réussit pas. Parce que il y a quand même plusieurs folies. On a juste 30 secondes, ça va arriver. Une fois qu'on joue une carte, on n'a plus le droit de parler. Ça va arriver qu'on échoue. Qu'est-ce qui se passe quand on échoue? Eh bien, pour chaque défi sur la carte qu'on a échoué, on va devoir rouler le dé de malus. Et quelqu'un va devoir obtenir une folie. Donc, plus qu'on échoue, généralement, plus qu'on échoue. Parce que ça va assez vite qu'on va accumuler les folies, ce qui rend ça plus difficile, ce qui rend faire en sorte qu'on échoue encore plus, ce qui rend ça plus difficile.
Donc, c'est un jeu qu'il ne faut pas l'échapper, parce que quand on l'échappe...
Quand on l'échappe solide. mais vous allez devoir rouler le dé de malus et obtenir une folie. Le dé de malus aura trois options possibles. Soit un accident, auquel cas vous allez devoir mettre deux blessures dans le deck. Vous allez aussi avoir confusion, qui vous fait défausser des cartes du deck. Ou encore perte de morale, qui vous fait perdre des jetons leadership. Finalement, vous allez me dire, ben, y a plusieurs possibilités pour les jetons de leadership. On en commence avec juste ça, c'est-tu possible d'en avoir? L'option, la réponse est oui. À la fin d'un round, vous avez l'option de faire une phase de repos, auquel cas vous pouvez rafraîchir votre deck, parce que si vous avez peu de cartes dans votre deck, vous ne rebrassez pas votre défausse si vous ne faites pas de phase de repos, et vous pouvez, en ce sens, regagner vos jetons de leadership, moins 1. Donc, vous devez défausser de manière permanente un jeton leadership.
On va aller faire une petite pause, puis tu nous reviens avec la conclusion au retour.
Absolument. The Mountains of Madness en anglais.
Conclusion.
Donc, une phase s'est déroulée. Vous avez déplacé votre avion. Vous êtes atterri sur une tuile. Vous avez viré votre tuile. Vous avez échoué ou réussi le défi en jouant les cartes appropriées. Vous avez par la suite à la passe de pioche, où vous repiochez votre main, et vous avez ou pas fait la phase de repos pour regagner des jetons leadership. Le tour va recommencer, on passe le leader au suivant, on va se redéplacer à nouveau et on va tranquillement monter dans la montagne. Comment gagner ou perdre finalement? Une seule façon de gagner, plusieurs façons de perdre.
Ça serait pas Lovecraft autrement.
Ça serait pas Lovecraft autrement. La première option, comment tu fais pour perdre? Il y a trois possibilités. La première, si jamais vous roulez un peu trop le dé de malus et que vous obtenez un peu trop de blessures. C'est-à-dire que à un certain moment, ça vous dit mettez des blessures dans votre deck et il n'y a plus de cartes dans la pile blessures que vous êtes en mesure de mettre dans votre deck. Eh bien, vous êtes tous morts d'une trop grande quantité de blessures.
Est-ce que c'est tout le groupe?
C'est un jeu coopératif. Donc, okay, si quelqu'un perd, tout le monde perd.
OK.
La deuxième façon, si jamais vous êtes censé perdre de manière permanente un jeton leadership et que vous n'en avez plus déjà, eh bien, vous perdez la partie. Ou encore, si jamais vous réussissez à vous enfuir de la montagne, mais que vous n'avez pas assez de reliques, vous échouez la partie. Donc, il faut quand même que vous alliez les chercher, ces reliques-là. Il va falloir que vous exploriez, ce qui entraîne un peu de difficulté. Mais si jamais vous réussissez à escalader, passer au travers les portes de la folie et vous enfuir avec suffisamment de reliques, eh bien, félicitations, vous avez réussi à vous enfuir malgré le prix que ça a coûté avec les reliques. Il y a bien évidemment un certain niveau de réussite. Si vous réussissez à récupérer les 11 reliques, vous avez une réussite totale. Et la façon de calculer à quel point vous avez réussi. Eux autres, dans le jeu, proposent de regarder le nombre de reliques moins le nombre de cartes blessures que vous avez dans votre deck. À mon avis, ça devient assez difficile de gagner selon cette métrique-là. Je vous propose de calculer le nombre de reliques moins le nombre de joueurs à la place comme critère de réussite minimale. Et c'est un peu ça. C'est simplement ça.
Merci, Hugo. Nathan, on va manquer de temps un petit peu. Donc, je vais de façon exécutive couper ta chronique en deux. Parle-nous de ton outil de génération de cartes. Puis la semaine prochaine, on reviendra.
Parfait.
Ben, à vrai dire, pas la semaine prochaine, mais je vous en reparlerai.
Okay. On reviendra.
Parfait. Donc, l'outil de génération de cartes en Pelt s'appelle Dungeon Painter Studio, qui est une application disponible sur Steam qu'on télécharge sur l'ordinateur. Donc, une fois qu'il est installé, puis plus besoin d'accès à Internet. Même pas d'Internet, il va fonctionner quand même.
Ouais, c'est avec Steam, donc quand même un DRM. Là. Faut ouvrir Steam pour...
Oui, mais une fois que l'application est installée...
C'est
même
pas une application cloud. Là,
c'est non, ça, c'est pas une application cloud, c'est une application purement hardware. Donc, une fois de téléchargé, il fonctionne même sans Internet. C'est une application que j'utilise depuis 2016, en fait. Là, il y avait une version purement sur Internet avant, mais ils en ont créé un logiciel qu'on peut télécharger. Et ça permet de faire des cartes de rencontres, je dirais. Donc, les cartes qui sont locales, où ce qui va avoir soit des combats, soit des scénarios, des trucs où ce que les joueurs vont devoir aller faire de la recherche. Donc, tu peux faire des cartes qui sont plus locaux.
Donc, c'est un battleground là, qu'on va créer. Là.
Exactement.
Des carrés, des X.
Tu as le choix. Carré, X, pas de X. Tu veux juste faire un dessin ad libre, vas-y. Tu peux avoir le grid qui est déjà dessus. Tu peux avoir un grid en X qui est déjà dessus. Donc, c'est réellement selon ce que vous avez de besoin. C'est disponible. C'est du drag and drop.
Okay. Donc, tu as des ressources déjà existantes.
Il y en a beaucoup.
Là, tu mets un buisson là, tu veux une route là, tu drops la route là.
Ouais, ben en fait, la route, c'est plus comme un voici des cases de genre terre, puis ben, tu dis ben, je fais avec un pinceau un peu comme sur peinte.
Mm-hmm.
Tu dessines ta route à peu près, puis à l'appareil. Tout ce qui est buisson, arbre, maison, bâtiment, roche, là, ça, c'est réellement du. Drag and drop, différentes sortes de roches, différentes sortes d'arbres pour faire des forêts luxuriantes, moins luxuriantes et compagnie. Donc, vraiment, vraiment facile à utiliser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de add-ons sur le Steam Workshop. Il y a beaucoup de plugins que tu peux aller chercher pour avoir comme... Ben, il n'y a pas de souche d'arbres coupées. Mm-hmm. Ben, tu peux aller chercher un plugin dans lequel ben, y a des sources, des souches, donc...
Payant, gratuit.
Payant, 16$.
Ben, le jeu de base, mais je te parle les...
Gratuit.
Donc, tous les plugins sont gratuits.
Toutes les plugins, il y en a des payants pour les plus volumineux compagnies, mais la plupart sont gratuits. C'est des fans de l'application qui les ont faites eux-mêmes.
Donc, il y a des mods que tu peux... des plugins faits par la communauté que tu peux télécharger par toi-même.
Exactement. Okay. Exactement.
Et il est approprié pour fantasy, pour sci-fi...
Fantasy, sci-fi, horreur, civil...
Il y a de tout.
Là. La section sci-fi est moins importante au niveau de l'application de base. T'as des planchers... des murs, puis comme t'sais, certaines consoles, des affaires comme ça là, qui pourraient être plus sci-fi, mais c'est plus limité. La version de base est réellement plus au niveau fantasy.
Okay. Fait que tu vas plus avoir des planchers en terre battue, en cobblestone,
en bois, en tuiles.
Ouais, mais on enlève les surfaces synthétiques.
Exactement.
Sci-fi, des trucs comme ça.
Il y en a quelques-unes, mais elles sont beaucoup moins nombreuses.
Avec les plugins, on peut compenser.
Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de mods qui vont avoir. Je sais qu'il y a un pack de mods qui est disponible sur le thème de Star Wars. Donc, il y a aussi également la possibilité d'ajouter sur vos cartes des NPC, des robots, des morceaux, des corps. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui te permettent de faire à peu près n'importe quoi, je dirais, même juste dans le jeu de base.
Okay.
C'est sûr qu'il faut réutiliser souvent les mêmes choses que tu vas pouvoir modifier un peu, mais pas trop.
Puis au niveau de la lourdeur du logiciel, disons que je vais faire une carte, là, j'ai-tu assez de 10 minutes ou ça va me prendre une demi-heure, une heure?
Ça dépend de la carte, je te dirais. Il y a des trucs qui sont un petit peu plus longs. Généralement, faire des bâtiments, je te dirais que c'est un petit peu plus long. Surtout si tu veux faire un bâtiment dans lequel on voit à l'intérieur.
Peut-être pas la meilleure affaire pour faire des méga donjons.
Peut-être non, pas la meilleure affaire pour faire des méga donjons, mais je te dirais, il y a une possibilité avec des générateurs de donjons en ligne d'importer le layout du donjon
et d'ensuite ajouter des trucs dans le donjon.
Fait que là, la question qui tue, y a-tu du AI là-dedans?
Mais c'est un logiciel qui est sorti en 2012.
Donc, probablement pas.
Ils ont pas j'ai pas regardé récemment. Donc, ils ont peut-être ajouté la fête du logiciel. Ce qui est agréable, c'est que tu payes une fois puis qu'il est à toi après. Donc, oui. T'as pas de. Il est 16$ l'application, là, je crois, sur Steam. Donc, elle vient en spécial assez régulièrement. Donc, si vous voulez faire des cartes pour jouer en ligne, le logiciel est vraiment agréable.
Et un des aspects de ce logiciel-là, c'est que c'est un précurseur à plein d'autres outils pour gérer des campagnes en ligne.
Exactement. Je te dirais qu'il est compatible avec Fantasy Ground, Foundry VTT, Roll20 et d'autres que je ne connais pas. Donc, on voulait parler, mais que je n'aurai pas le temps aujourd'hui.
Est-ce que cette application-là est elle-même interactive ou si elle doit être importée dans d'autres systèmes pour que ce soit interactif si jamais tu veux que les autres joueurs...
Elle doit être importée dans d'autres systèmes, c'est réellement pour faire des cartes, même s'il y a la possibilité de mettre des personnages et des trucs dans la carte.
Donc c'est un paint très très fancy.
Exactement.
Mm-hmm. Bon, mettons que je suis un maître de jeu puis je vais mettre une porte secrète dans ma salle. Est-ce que la carte supporte, ton outil supporte ça, une version ce que vous voyez, puis une version ce que vous voyez quand vous avez réussi votre jet de perception?
Je te dirais que c'est plus au niveau des VTT, donc des Virtual Tabletop, que vous allez gérer ça. Donc vous allez dessiner la carte avec toutes les pièces visibles. Et par exemple, dans Fantasy Realm, que j'ai utilisé beaucoup, il y a une façon de mettre des clouds, donc certaines sections ne sont pas visibles aux joueurs et les uniquement visibles au DM.
Okay.
Donc, c'est plus au niveau du logiciel que vous allez utiliser pour jouer en ligne, dans lequel vous allez gérer ça.
Ou créer le mur comme pièce détachable que tu vas importer séparément pour bloquer tout.
Exactement. Il y a aussi cette possibilité-là là, de tu crées ta salle, ta pièce avec la salle-là, puis une pièce sans la salle. Donc, tu peux alterner. Là, la plupart des trucs sont relativement rapides là, pour changer les cartes là, en jeu.
Bon, c'est bon. Fait que c'est un time saver dans ton livre.
Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, une fois que la carte est faite, oui, tu as mis un certain temps pour générer la carte. Mais après ça, il n'y a rien qui dit que tu peux pas te resservir d'une maison dans les bois plus tard dans ton aventure.
Est-ce qu'il y a une communauté de partage où ces maps-là sont déjà partagées?
Je pense qu'il y en a quelques-unes de déjà préfaites sur Steam, mais là, il faudrait que je regarde.
Peut-être quelque chose à aller voir sur Reddit puis sur
exactement. Je sais qu'il y a des groupes Reddit, Pinterest que tu peux aller chercher. Donc, il y a plein de façons d'aller chercher des cartes déjà générées de toute façon sur Internet. Là. Mais si vous vous sentez créatif et que ça vous tente d'avoir une map personnalisée que vous ne trouvez pas...
Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même au final. Si on veut avoir exactement ce qu'on a dans notre vision, ce serait ce système-là.
Exactement. Dungeon Painter Studio fonctionne très bien. Je m'en suis servi longtemps. Là, maintenant qu'on est revenu en présentiel, je m'en sers un peu moins parce que c'est comme... J'imprimerai pas les cartes, là, puis...
On tient à vous rappeler que cette chronique n'est pas sponsored par...
Non, c'est pas sponsorisé, là.
Et on n'est pas sponsored par l'intelligence artificielle non plus, qui va commencer à prendre beaucoup de place là, dans la gestion et la génération là, de trucs là, pour vos parties. Puis, ben, couteau à deux tranchants, hein. On va se le dire vite. Ça va pas mal mettre fin à l'émission pour cette semaine.
Oui.
Deux petites annonces avant qu'on parte. Trois petites annonces. Je vous rappelle le party dimanche le 8.
Le 8, c'est l'éclipse et c'est lundi.
Oui, c'est ça. Lundi, regardez pas le soleil, ce n'est pas vos lunettes, hein, s'il vous plaît. C'est notre... la semaine prochaine, c'est notre avant-dernière épisode de l'année. Et on va faire un petit spécial la semaine prochaine. On va faire les Olympic Geeks parce qu'on est dans les années olympiques en 2024.
Ben oui.
Puis mes trois amis, vous allez mettre vos creds sur la table essentiellement. Je vous prépare 45 questions.
Oh, il va falloir qu'on mérite notre place. Qu'on prouve qu'on mérite notre place.
Oui, exactement. Il va falloir 45 questions. Non, c'est ça. Hein. Le moins bon, je le kick out de l'émission. C'est une blague. 45 questions, comment ça va marcher? Premier indice, super vague. Plus ça va aller, plus les indices vont être précis et moins la question va valoir de points. Donc, puis ben le but, ça va être de faire des wild guesses, des trucs comme ça. On a nos petites cloches là, en studio.
Buzzer.
Nos petits buzzers. Je veux juste m'assurer qu'on en a trois.
On en a quatre.
Ah, c'est parfait, ça. Fait que c'est ça la semaine prochaine. Et la dernière semaine, dans le fond, on va faire deux parties de l'émission. La première partie, ça va être des ressources en ligne. Donc, on va parler de Board Game Arena. On va parler de tout...
un ou plusieurs des trucs que j'ai mentionné aujourd'hui Discord, rapidement.
Tous ces trucs-là.
Ben oui, puis... la chronique est faite.
Puis on va aussi parler de ben, qu'est-ce qu'on va regarder nous autres cet été. Qu'est-ce qu'on a hâte qu'ils sortent. Puis ben, ça va être ça pour 2023-2024. Puis ben, on a déjà notre slot réservé 24-25. On verra qui seront les animateurs et co-animateurs à ce moment-là. Mais le CJSS va continuer.
Yep.
Puis on vous rappelle que ce soir, comme tous les mercredis soirs, on a notre soirée board game.
En effet, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, une bonne fin de session pour ceux qui sont dedans. Puis on se revoit la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.